avec un gouvernement minoritaire. Peu importe la couleur, que ce soit rouge, que ce soit bleu, est-ce que dans le contexte actuel, c'est souhaité, selon toi?
Écoute, j'étais complètement pour changer le mode de scrutin, moi. Mais complètement pour avoir un mode de scrutin à plus qu'un tour, tu sais, à trouver une façon de mieux représenter l'opinion des gens.
Ouais.
Si M. Carney se réveille avec un minoritaire, même si c'est juste trois circonscriptions manquantes, Monsieur Trump va jouer là-dessus sans arrêt pendant les prochains mois. Il va jouer là-dessus.
Donald Trump, probablement, je sais pas où il est présentement, s'il est à Washington ou à Mar-a-Lago ou peu importe. Probablement qu'il a les deux pieds sur le pouf, le popcorn, puis lui, il doit souhaiter que ça soit un gouvernement minoritaire.
À la limite, de la manière qu'il pense, là, il se fout complètement de la couleur du minoritaire en question, à mon avis.
Oh, oui,
il est ailleurs dans sa tête, c'est complètement absurde.
Ah, ça va être intéressant. Pendant ce temps-là, l'ancien maire de Trois-Rivières qui tente de nouveau sa chance.
Pour les conservateurs, es-tu
très loin derrière.
Derrière le
candidat libéral.
Hein?
Ouais.
Ça, cependant, s'il passe là, ça peut être un indice qu'ils s'en vont vers du majoritaire.
Ouais.
C'était dans les 5-6 clés à vérifier.
Et là, on voit que les résultats au Québec et en Ontario commencent à entrer. L'écart, tranquillement, se creuse. On est à 52-39 présentement.
On peut, les Maritimes ne peuvent pas être garants de ce qui va se passer. C'est trop...
C'est trop minoritaire, ouais.
Et moi, j'ai la théorie aussi que Terre-Neuve est de plus en plus un peu comme l'Alberta. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est pétrolière. Même ici, M. Généreux parle de pétrole. Une fois sur deux, il parle de pétrole. Mmh. Donc, les deux pôles très, très pétroliers, qui sont l'Alberta et Terre-Neuve, je pense qu'il n'y a pas de miracle à faire quand tu n'es pas conservateur.
Écoute, François, je te remercie d'avoir été là ce soir. Ça a été un plaisir d'avoir tes analyses. Ça aurait été le fun d'avoir un peu de croustillant, c'est-à-dire des résultats, mais soit dit en passant, le site d'Élections Canada.
Il y a de la misère, hein?
Écoute, il doit avoir un gros roulement présentement. Habituellement, tu gères ça, tu sais. Élections Canada, tu le sais qu'il va y avoir du monde sur ton site.
Ben, fais en sorte. C'est à peu près galant, ça va rentrer, hein.
Fais en sorte d'augmenter ta capacité portante, là. Je suis pas un expert là-dedans, mais pour l'instant, je peux pas vous dire s'il y a des résultats préliminaires. Donc, merci beaucoup, François. Nous, on va aller, rejoindre les gens du 98.5 avec Philippe Quentin et Valérie Beaudoin. On va revenir en cours de route ce soir pour parler des résultats ici dans la circonscription. Et lorsqu'on aura un vainqueur, on aura l'occasion de lui jaser en onde. Et lorsqu'on aura des perdants également, on va aussi leur parler, bien sûr. Donc, on va aller au 98.5, mais restez pas loin. On va être là dans les prochaines minutes, bien sûr, si il y a du nouveau à vous transmettre pour les circonscriptions qui nous intéressent.
C'est pas mal toute la campagne électorale de tous les partis. Puis M. Carney a un peu incarné, excusez-moi le jeu de mots, là, involontaire, cette espèce de stabilité ou de continuité qu'on voyait pas il y a 4 mois ou 6 mois. Si on avait dit, ben là, les libéraux risquent de rentrer pour un quatrième mandat, tout le monde aurait dit, ben non, c'est impossible. Ce qui prouve qu'en politique, tout peut changer très rapidement.
Merci beaucoup, M. Boulris.
Ça me fait plaisir. Bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée à vous, Alexandre Boulris, qui est le seul député du NPD au Québec et qui défend son siège ce soir dans le côté de Rosemont, la petite patrie.
D'ailleurs, il n'y a toujours pas de résultat en ce qui concerne Rosemont, la petite patrie. Pas de résultat dans Québec-Centre non plus en ce qui concerne la circonscription du député sortant Jean-Yves Duclos. On parlait un petit peu plus tôt d'Alexis Brunel du CEP au Lac-Saint-Jean. Il mène avec 4 bureaux de scrutin sur 246. Il a 89 voix d'avance, donc il mène sur le candidat libéral Denis Lemieux qui arrive deuxième. Et parmi les gens qu'on connaît bien, entre autres Nathalie Provost dans Châteauguay, les Jardins de Napierville, une nouvelle circonscription. Nathalie Provost, la libérale qui mène avec 24 voix d'avance sur le bloquiste Patrick O'Hara, mais il n'y a seulement qu'un bureau de vote de dépouillé pour l'instant.
Et moi, un comté que je surveille et que je surveillerai jusqu'à son dénouement, c'est celui de Trois-Rivières, parce qu'on sait que c'est une lutte à trois là, entre les libéraux, les conservateurs et le bloc. À l'heure actuelle, 12 boîtes de scrutin sur 269 et les libéraux qui sont en avance avec 49,5% contre 23,7% pour les conservateurs et 23,2% pour le Bloc québécois. Mais encore une fois, ce sont des résultats très préliminaires.
Et on va surveiller aussi les chefs des différents partis. Il y en a certains qui sont en danger. On s'en parlait un petit peu plus tôt à la fin de ton émission, Philippe. Entre autres, et François Blanchet, je vois dans Belleuil et Chambly, est en avance, 50%, mais on a seulement un bureau de scrutin sur 260. 67. Alors, on s'entend qu'on est prudent, mais quand même, ça va être une circonscription qui va être à surveiller. Et je me tourne aussi vers Dimitri. Tout à l'heure, tu disais la circonscription de Pierre Poilievre et bien sûr Jack Meeting du côté de la Colombie-Britannique dans son cas où il risque de perdre son siège.
Et dans 11 minutes, nous allons commencer à recevoir cette réponse parce que les bureaux de vote vont fermer en Colombie-Britannique dans à peu près 11 minutes. Donc, dans 11 minutes, les bureaux de vote seront fermés à travers le pays. Et là, les résultats vont commencer à nous donner un portrait vers où est-ce qu'on se dirige.
Bon, on commence à avoir tranquillement l'esquisse d'un portrait là, à l'heure actuelle. Et tu as souvent parlé, Philippe, depuis le début de l'émission, non pas du nombre de candidats en avance pour les sièges, mais du pourcentage de vote.
Oui, exactement. Puis le Parti libéral du Canada fait un très bon score là-dessus, hein, quand on regarde la globalité du nombre de votes. Parce que quand on regarde du côté national, donc partout au Canada, le Parti libéral du Canada est à 51,2%. Le Parti conservateur, 39,6%. Bon, il y a beaucoup de comtés en Alberta, au Manitoba ou à Saskatchewan pour faire monter le score du Parti conservateur et descendre le score du Parti libéral du Canada. Moi, depuis le début aussi de l'émission, je vous dis, regardez ce qui se passe sur la rive sud et la rive nord de Montréal, parce que ça va être un indicateur extrêmement révélateur pour savoir si ce sera un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Et actuellement, les premiers résultats de ces comtés-là, qui sont souvent des batailles, en fait, tout le temps, des batailles entre le Bloc québécois et le Parti libéral du Canada, qu'est-ce qu'on voit actuellement? C'est que le vote du Bloc québécois semble tenir, semble être assez fort pour au moins donner des batailles avec le Parti libéral du Canada. Donc, reste à voir comment ça va se dérouler, mais quand on regarde dans la plupart des circonscriptions, à la fois sur la rive sud et sur la rive nord, là où les résultats sont sortis, les premiers résultats donnent des résultats relativement encourageant pour le Bloc québécois.
Et je veux rappeler aux gens, si vous voulez nous écrire, hein, parce qu'on veut avoir vos commentaires pendant toute la soirée électorale, entre autres sur l'application de Cogeco Média, vous allez dans la petite bulle, dans le haut à droite, on veut avoir vos commentaires sur cette soirée-là. Est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous êtes stressé des résultats? Est-ce que vous suivez ce qui se passe en direct? Donc, merci de nous écrire. Et aussi, si vous êtes curieux de voir comment ça se passe dans les coulisses, donc je vous invite à nous écouter sur l'application de Cogeco Média, mais vous pouvez aller sur YouTube ou aussi sur la chaîne Cogeco Média, encore une fois, si vous voulez voir comment ça se passe, l'envers du décor avec toute l'équipe qui est autour de la table.
Dimitri, on en parlait depuis le début de l'émission, c'est peut-être pas les résultats qui étaient attendus pour les chefs, meilleur score que prévu pour les conservateurs, notamment dans les maritimes, plus décevant pour les libéraux. Là, à l'heure actuelle, là, les bureaux de vote sont maintenant fermés dans presque partout au pays, sauf en Colombie-Britannique, et en Colombie-Britannique, c'est dans quoi, dans 7 minutes, 8 minutes environ. Est-ce que là, les libéraux qui ont 73 élus ou en avance contre 52 pour les conservateurs, est-ce qu'ils reprennent un peu confiance?
Non. Et si j'étais le Parti libéral présentement, pour citer Jean Lapierre, ils sont tellement stressés, tu peux pas passer un 10 cents entre leurs fesses. Si on continue comme ça, on se dirige vers un gouvernement minoritaire.
Exactement. Minoritaire libéral?
Pour l'instant, oui.
OK.
Et juste dernière chose, ce que je suis en train de voir, c'est les libéraux sont en train de perdre, au moins pour l'instant, ce n'est pas confirmé, certaines circonscriptions en Ontario, comme York Centre. York Centre, c'est une circonscription dans le 416. Ça, c'est Toronto. Circonscription avec une grande population juive. Et là, le Parti conservateur du Canada, qui est probablement la position la plus pro-Israël. L'autre circonscription que j'aimerais voir les résultats bientôt...
C'est quand même un bureau de scrutin sur 172.
C'est très tôt. Mais c'est ça où on est présentement.
Philippe?
Ben, c'est la même chose. Moi, il y a certaines circonscriptions en Ontario qui vont être déterminantes à savoir ça va être quel gouvernement. J'allais dire la même chose que Dimitri. Aujourd'hui, en ce moment... Au moment où on se parle, si la tendance se maintient, c'est un gouvernement qui risque d'être minoritaire. Avec 60, actuellement, les libéraux sont en avance dans 78 comtés, les conservateurs dans 55 comtés. Donc, ça montre que c'est un peu plus serré en termes de sièges qu'on pouvait s'attendre avec les dernières analyses.
À l'heure actuelle, le plus heureux, c'est qui? C'est Pierre Poilievre ou Yves-François Blanchet?
Ironiquement, le plus triste présentement devrait être Pierre Poilievre si on regarde ce qui se passait il y a 3 mois. Celui qui fait des culbutes présentement, c'est Pierre Poilievre.
Attends, mais j'en connais un autre, le plus triste. Je ne sais pas c'est qui le plus heureux actuellement, mais le plus triste, je sais c'est qui, c'est Jack Meeting.
Oui.
Parce que le vote néo-démocrate, sincèrement, c'est une catastrophe. Là.
partout, là, c'est extrêmement bas, beaucoup plus bas qu'à l'habitude, et ça change complètement la dynamique dans tous les comtés au Canada.
Et c'est même plus bas que dans les sondages, on est à 4,4%. Oui. Voilà. C'est plus bas que dans les sondages.
4,4% à l'heure actuelle.
D'appui pour le nouveau parti.
On est à 8% dans les derniers sondages.
Et ce qui est particulier dans la dynamique actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de votes néo-démocrates qui se sont... C'est pas tout le vote néo-démocrate qui se tourne vers le Parti libéral du Canada.
Non.
Il y a beaucoup de votes néo-démocrates qui se tournent aussi vers Pierre Poilievre. Si on regarde ça d'un axe gauche-droite, on se dit, ben, ça fait pas véritablement de sens. Ceci étant dit, le vote à la fois néo-démocrate et conservateur ont une chose en commun, c'est que c'est pas des gens qui votent pour le Parti libéral du Canada.
Et on l'a vu dans les Maritimes, là, que le vote néo-démocrate ne s'est pas transposé à 100% vers les libéraux. Loin de là, les conservateurs en ont manifestement remporté une partie. Dimitri, ça voudrait dire quoi, un gouvernement minoritaire pour le Canada dans le contexte géopolitique actuel?
Très difficile. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai vécu deux gouvernements minoritaires et un gouvernement majoritaire. Quand tu es majoritaire, tu ne penses pas à la prochaine élection lors des 12 à 18, même 24 premiers mois. Quand tu es minoritaire, chaque décision, chaque jour, elle est scrutée sous la loupe de qu'est-ce que cela veut dire politiquement. Est-ce que cela risque de faire tomber le gouvernement? Je pense qu'avec la crise actuelle dans laquelle on se retrouve, un gouvernement minoritaire va faire en sorte que celui qui est en charge ne va pas nécessairement prendre des décisions difficiles, parce que très souvent, les décisions difficiles sont aussi les décisions qui ne sont pas populaires.
Mais maintenant, il n'y aurait sans doute pas d'élection dès le lendemain, là, parce que Yves-François Blanchet a déjà dit qu'il ne ferait pas tomber un gouvernement, et c'est lui qui aurait potentiellement la balance du pouvoir avant, à tout le moins, les prochaines élections provinciales qui ont lieu en octobre 2026.
Terminons celle-ci avant de prédire la prochaine.
Mais on peut regarder en arrière, par contre. 2019 et 2021, c'était essentiellement le même score avec les libéraux en 2021, par exemple, qui avaient 160 sièges, en 2019, qui n'avaient 157, et les conservateurs qui en avaient 119 en 2021 et 121 en 2019. Donc, ça montre à quel point, si la tendance se maintient aujourd'hui, on pourrait se retrouver dans les mêmes eaux qu'aux deux dernières élections.
On se demandait qui était le plus heureux ou le plus malheureux ce soir. C'est certainement pas François-Philippe Champagne, le libéral, qui est malheureux parce qu'il y a des projections qui disent qu'il est élu dans son comté.
Je n'ai jamais vu malheureux cet homme-là, moi.
Non, pas vraiment, non. Alors, Saint-Maurice Champagne, c'est François-Philippe Champagne.
Il a l'air assez enthousiaste. Ouais. OK, merci, Denis. Là-dessus, on s'en va à la pause et on revient dans un moment. C'est notre soirée électorale à Cogeco Média.
Du 2 au 4 mai au stade IGA, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal. Présenté par Garantie Avantage Plus, en collaboration avec Next Drive Napa et VE Recharge. Plusieurs marques sous le même toit et des véhicules en essai. Billets et infos, svem.ca.
Résolument canadienne. C'est dans l'ADN des emballages Carousel. Canadienne parce qu'elle investit dans l'économie nationale. Parce que Carousel est le plus grand distributeur d'emballages 100% canadien au pays. Et surtout, canadienne parce qu'elle soutient les entreprises locales avec une grande diversité de produits d'ici. Et parce qu'elle continue de bâtir des relations d'affaires avec les entreprises canadiennes. Achetez canadien sur carousel.ca.
Vous avez des questions? Écoutez Spécialiste sur demande. Tous les dimanches de midi à 13h, Geoffrey Subrenier reçoit un expert de son domaine dans une formule ligne ouverte pour répondre à toutes vos questions. Ce dimanche, il s'entretient avec un notaire. Être responsable de ses enfants encore dépendants et de ses parents vieillissants peut alourdir le quotidien et avoir un impact sur la vie personnelle, familiale, sociale et financière. Comment un notaire peut vous conseiller pour trouver vos repères et atteindre un certain équilibre? Spécialiste sur demande tous les dimanches dès midi au 98.5.
Cars for Kids. Donnez votre auto aujourd'hui.
Donnez en ligne à carsforkids.ca. Cars avec un K. Le ramassage est facile et rapide. Et en plus d'aider un enfant, vous recevrez un crédit d'impôt.
1-877-CARS-FOR-KIDS. Donnez votre auto aujourd'hui.
IKEA offrira 15% de réduction sur presque tout pendant les journées Hey. On a donc décidé de ralentir la vitesse de cette publicité de 15%. Dans un monde où tout va vite, on s'est dit que ça se prendrait bien. aussi bien que 15 % de réduction sur presque tous vos achats IKEA. Du 2 au 4 mai prochain, les membres IKEA Family pourront profiter de 15 % de réduction sur presque tout en magasin pendant les journées Hey de IKEA. Une bonne façon de rester zen.
Pour tout suivre en direct, pour ne rien manquer lors de vos déplacements, téléchargez l'application Cogeco Média. Cogeco Média. 98.5. Envie de vous lancer un défi? Participez au Marathon Bénéva de Montréal du 19 au 21 septembre. Choisissez votre distance et découvrez Montréal autrement. Ici, mon